Qu'est-ce que la drépanocytose, dont plus de 500 000 enfants par an sont atteints à la naissance?
À la veille de la journée mondiale de la drépanocytose le 19 juin, nous nous intéressons ce matin à cette maladie du sang, maladie génétique la plus fréquente en France et dans le monde. Oui, c'est vrai. La Fondation Pierre Fabre est un acteur majeur dans la lutte contre la drépanocytose. Son chargé de mission, Laurie Vernet, est l'invité de Radio Présence. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Près de 600 nouveau-nés sont diagnostiqués chaque année en France. C'est près de trois fois plus que le nombre annuel de diagnostics de la mucoviscidose dans le pays, qui est évidemment une maladie plus connue. Quelle est donc cette maladie, cette drépanocytose, dont le nom n'est pas vraiment connu, il faut le dire?
C'est vrai, c'est pas très connu et malheureusement, c'est à la fois pas connu et très répandu, comme vous l'avez dit. C'est une maladie du sang, c'est une maladie du globule rouge, une maladie génétique qui est transmise par les deux parents, donc héréditaire, et qui va se caractériser par une déformation du globule rouge qui va entraîner tout un tas de symptômes et si elle n'est pas prise en charge, a beaucoup de chances d'entraîner la mort. Donc l'OMS considère qu'en l'absence de prise en charge, c'est 50% à 90% des enfants qui décèdent avant l'âge de 5 ans.
Donc on va voir l'intérêt de la détecter. Et est-ce que vous pourriez nous donner, Laurie Vernet, les symptômes de cette maladie?
Oui, alors c'est une maladie du sang. Donc le sang circulant dans tout le corps, ça peut toucher tous les organes et donc il y a tout un tas de complications. Mais les trois principaux symptômes, le trépied de la drépanocytose comme on l'appelle, ça va être d'abord les crises douloureuses. Donc la drépanocytose, c'est aussi appelé la maladie de la douleur. Donc en fait, ces crises douloureuses, elles sont créées quand les globules rouges qui sont déformés vont se coincer dans les vaisseaux sanguins et ça va créer donc des épisodes douloureux très intenses, souvent au niveau des articulations ou dans les os, qui peuvent durer parfois plusieurs heures, plusieurs jours. Donc vraiment, la douleur, c'est le symptôme cardinal. Ensuite, vous avez la sensibilité aux infections. Donc le système immunitaire des enfants atteints de la drépanocytose est très affaibli. Et donc du coup, beaucoup de chances d'avoir des maladies comme la méningite, les pneumonies. Troisième principal symptôme, ça va être l'anémie. Donc les personnes drépanocytaires sont anémiées de façon chronique parce que les globules rouges, en plus d'être déformés, ont une espérance de vie plus courte. Donc du coup, ils ont moins d'hémoglobine, moins de globules rouges. Et donc cette anémie chronique se transforme en anémie sévère parfois. Et là, c'est une urgence vitale. Après, il y a tout un tas d'autres de complications chroniques hein, parce que c'est une maladie chronique. Et donc vous avez des symptômes comme les AVC, des ulcères de jambes, des ostéonécroses, tout un tas de symptômes qui apparaissent au cours de la vie du patient.
Et est-ce que, indépendamment de ces symptômes qui sont à l'intérieur du corps, est-ce qu'il y a des signes visibles de cette maladie?
Oui, alors surtout chez les enfants et les nouveau-nés. Donc les premiers symptômes apparaissent à partir de l'âge de 6 mois. Hein. Donc c'est une maladie qu'on a à la naissance, hein, c'est une maladie génétique.
Oui, c'est les génétiques.
Et donc on peut la diagnostiquer à travers des symptômes visibles, notamment ce qu'on appelle un syndrome pied-main. Donc vous avez les pieds et les mains des bébés qui vont gonfler. Vous avez aussi des ictères, donc les yeux jaunes et la paume des mains blanche, donc ça c'est des symptômes d'anémie, donc c'est comme ça que vous pouvez diagnostiquer la drépanocytose, mais ça peut être confondu avec d'autres maladies, notamment dans un contexte africain, on y reviendra peut-être plus tard, mais c'est une maladie qui touche beaucoup l'Afrique, et donc là ça peut être confondu avec des maladies comme le paludisme. Et donc là, c'est pour ça que ça entraîne aussi une situation de sous-diagnostic.
Alors, vous disiez que l'Organisation mondiale de la santé estime qu'entre 50% et 90% des enfants touchés par cette maladie décéderont avant l'âge de 5 ans. Donc, l'idéal, c'est de faire du dépistage. Comment va se détecter la drépanocytose?
Alors, c'est une très bonne question parce que le dépistage, c'est l'enjeu majeur autour de la prise en charge. Hein. Sans dépistage, sans diagnostic, vous ne pouvez pas prendre en charge. Et l'OMS recommande de prendre en charge le plus tôt possible, avant même l'apparition des premiers symptômes. Donc, il y a plusieurs techniques. Pendant très longtemps, c'était la technique de référence, et encore aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine. Donc, c'est un examen à base de sang, d'un prélèvement sanguin, qui est acheminé dans un laboratoire avec une machine et un technicien de laboratoire qui va tester ça. Mais aujourd'hui, est apparu depuis quelques années des innovations très importantes qui sont les tests de diagnostic rapide qui permettent en 15 minutes avec une goutte de sang de savoir si vous êtes atteint de la maladie ou si vous portez le gène de la maladie parce que vous pouvez être porteur sain de la drépanocytose et c'est comme ça que vous allez la transmettre à vos enfants, donc porteur du gène.
Porteur sain, ça veut dire qu'on l'a reçu d'un seul parent?
Alors, oui, c'est ça. En fait, vous avez reçu le gène d'un de vos deux parents qui lui-même portait le gène. Et donc, quand vous êtes malade, en fait, quand vous portez le gène, vous héritez le gène de vos deux parents.
D'accord. Voilà.
Quand vos deux parents sont porteurs du gène et ils vous donnent le gène, c'est là que vous êtes malade. Donc, ces tests de diagnostic rapide aujourd'hui que vous pouvez utiliser chez les nouveau-nés sont vraiment la manière de révolutionner le diagnostic, notamment dans les pays africains où il n'y a pas de plateau technique très développé, pas beaucoup de laboratoires équipés, hein, parce que c'est des équipements qui coûtent très cher pour faire le diagnostic, l'électrophorèse, avec des techniciens formés, beaucoup de maintenance.
Vous me disiez, Laurie Vernet, en préparant cet entretien, que tous les nouveau-nés ont ce dépistage, même en France, alors que vous dites que c'est une maladie qui touche principalement l'Afrique et un petit peu l'Asie aussi. Aux parents qui nous écoutent, leurs enfants sont testés pour cette drépanocytose.
Oui, alors en France, c'est très récent. Avant, donc, le dépistage était ciblé sur les populations dites à risque, donc comme vous l'avez dit, les populations d'ascendance africaine ou du Moyen-Orient ou d'Inde, hein, qui sont vraiment les principales zones de prévalence de cette maladie-là. Mais aujourd'hui, depuis quelques années, c'est assez récent, le dépistage est devenu systématique. Donc quand un bébé naît, il se fait prélever au niveau du talon et là, il y a tout un tas de maladies génétiques qui sont dépistées, dont la drépanocytose. Mmh.
Et pourquoi ça touche particulièrement ces pays d'Afrique et d'Asie ?
Alors, c'est un peu compliqué à expliquer. La principale théorie qui explique ça, qui est un peu admise, c'est que c'est un lien avec le paludisme. Donc, en fait, si vous superposez la carte de la drépanocytose avec la carte de la prévalence du paludisme, elles sont très similaires. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, la drépanocytose, qui est issue d'une anomalie génétique, elle est apparue dans cette zone-là parce que quand vous êtes porteur sain de la drépanocytose, vous développez une résistance un peu plus importante aux formes graves de paludisme.
Donc oui, en fait, vous avez moins de chance. Le paludisme est dans ces continents-là.
Voilà, donc très répandu en Afrique, qui tue énormément de gens. Hein. Le paludisme, je crois que c'est 600 000 personnes par an aujourd'hui, mais je crois que c'est la maladie qui a le plus tué dans l'histoire de l'humanité. Donc dans ce contexte-là, les personnes qui étaient porteurs sains, donc qui n'avaient qu'une fois le gène, avaient une résistance supérieure à cette maladie-là. Donc, le gène a pu se répandre dans ce contexte-là, parce qu'il représentait un avantage, en fait, en termes de survie.
Et oui.
Par contre, quand vous êtes porteur deux fois du gène, là, par contre, vous n'avez aucune résistance supplémentaire au paludisme. Au contraire, c'est une maladie qui va aggraver l'anémie et donc va représenter un facteur de mortalité supplémentaire.
Mmh. Est-ce que ça se guérit, la drépanocytose ?
Alors... C'est compliqué de guérir de la drépanocytose. Il existe deux traitements qui le permettent, mais qui sont réservés dans tous les contextes à une extrême minorité de patients, donc y compris en France, y compris aux États-Unis. C'est donc d'abord la greffe de moelle osseuse, en fait, mais qui nécessite d'avoir un donneur compatible
et
déjà,
oui.
Et puis qui nécessite aussi un traitement très lourd, hein, immunodépresseur, et puis ensuite anti-rejet à vie pratiquement. Donc là, voilà, en France et en Europe, on va réserver ça aux patients qui font vraiment les formes les plus sévères de la maladie, énormément de crises, énormément de symptômes, et qui en plus ont un donneur. En Afrique et dans les pays un peu du Sud, là, c'est très très peu accessible, ça coûte extrêmement cher. Une autre thérapie qui est vraiment expérimentale mais qui est très prometteuse, c'est la thérapie génique. Alors là, moi, je pourrais pas vous expliquer comment ça fonctionne, mais ça va viser directement à agir sur les gènes. Et donc là, pareil, ça va guérir de la drépanocytose parce qu'on va retirer, entre guillemets, le gène responsable de la maladie. Mais ça, là, aujourd'hui, c'est très expérimental, à ma connaissance.
C'est encore tôt pour
C'est très, très peu de patients qui ont pu bénéficier de ça. Mais la recherche avance et c'est peut-être la principale source d'expérience pour un traitement curatif.
Oui, c'est drépanocytose. Ça. Oui, oui. Alors, la prise en charge a quand même évolué, hein, vous le disiez, notamment dans les traitements, mais aussi dans le dépistage. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être deux, trois étapes pour nous montrer cette progression ?
Oui, alors, l'espérance de vie des personnes drépanocytaires a extrêmement augmenté au cours des dernières décennies. Et ça vient de l'amélioration de la prise en charge. Donc d'abord, suite à la généralisation du dépistage qui a permis de prendre en charge très tôt. Et ensuite, aujourd'hui, il y a un traitement qui est apparu il y a quelques, peut-être 10-20 ans, qui s'appelle l'hydroxyurée. l'hydroxyurée qui permet, en fait, si c'est pris tous les jours, il faut vraiment une très bonne observance, d'améliorer considérablement la qualité de vie des personnes drépanocytaires en augmentant, en fait, le taux d'hémoglobine non déformée qu'ils ont dans leur sang.
Donc, ça réduit la douleur aussi.
Ça réduit la douleur, ça réduit tous les symptômes, mais ça nécessite d'être pris tous les jours. Alors, c'est pour ça qu'il y a un gros enjeu dans les pays africains où la prévalence est très forte, parce que ce médicament n'est pas accessible ou très peu, il est très cher et il y a beaucoup de ruptures d'approvisionnement. Donc voilà, là, il y a aussi beaucoup à faire pour rendre ce médicament accessible en Afrique et ailleurs.
D'accord. La Fondation Pierre Fabre intervient dans la lutte contre cette maladie, la drépanocytose, depuis près de 20 ans. Quelle est précisément son action, Laurie Vernet ?
Alors oui, la Fondation Pierre Fabre est un acteur très important dans la drépanocytose, notamment en Afrique francophone. Donc, elle mène aujourd'hui 8 programmes dans 9 pays, donc des programmes qui sont aussi soutenus par l'Agence française de développement. Ses modalités d'intervention sont un peu toujours les mêmes. Donc elle va s'appuyer sur des partenaires locaux, donc des associations de patients, des associations de médecins, de santé publique, pour mettre en place des programmes de dépistage néonatal, donc des nouveau-nés, en s'appuyant sur toutes les technologies disponibles et surtout aujourd'hui les tests de diagnostic rapide. Ensuite, elle va viser à améliorer la prise en charge en rendant disponibles les médicaments. Donc, je ne les ai pas cités tout à l'heure, mais en plus de l'hydroxyurée, il y a des médicaments essentiels qui sont l'acide folique et la pénicilline, donc les antibiotiques pour lutter contre les infections. Après, il y a d'autres enjeux de la prise en charge comme l'éducation thérapeutique qui est très importante. Mais elle va aussi former, en tout cas participer à la formation des personnels de santé. Très important parce qu'elle est extrêmement lacunaire, notamment dans les pays d'intervention de la Fondation Pierre Fabre. Parfois, ça représente 2 ou 3 heures au sein de leur formation initiale, les médecins, pour une maladie qui touche jusqu'à 1% des naissances là-bas. Et enfin, dernier axe d'intervention, peut-être le plus important, elle apporte un appui technique aux différents ministères de la santé dans les pays dans lesquels elle travaille, donc en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, pour que ceux-ci se dotent de politiques publiques, d'outils stratégiques destinés à lutter de façon, on va dire, durable et à l'échelle nationale contre cette maladie. Voilà. Après, il y a aussi tout ce qui est enjeu de sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation, que les personnes connaissent leur statut, savoir s'ils sont porteurs du gène ou pas. Donc aujourd'hui, la Fondation Pierre Fabre, elle intervient dans ces modalités-là, dans des pays comme le Cameroun, la République démocratique du Congo, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali depuis très longtemps. Voilà, un peu en Haïti aussi.
Ah oui, aussi en Haïti.
Parce que ça touche aussi les Caraïbes.
Mm-hmm. Puisqu'il nous reste quelques minutes, vous avez utilisé ce mot de stigmatisation. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Oui, la drépanocytose et les personnes drépanocytaires, notamment en Afrique, peuvent faire l'objet de beaucoup de stigmatisation parce que ça charrie beaucoup d'idées préconçues, beaucoup de tabous. En fait, vu que c'est une maladie du sang, c'est une maladie chronique, parfois c'est vu comme une malédiction, comme de la sorcellerie. La stigmatisation va aussi énormément toucher les mères, parce qu'en fait, on a expliqué que c'était une maladie génétique qui était transmise par les deux parents, mais c'est généralement les mères qui sont vues comme responsables de la maladie de leur enfant, donc elles sont souvent quittées par le père, exclues de leur famille, elles se retrouvent à devoir élever leur enfant tout seul, et un enfant qui nécessite une prise en charge très chère, donc dans un contexte où il n'y a pas de sécurité sociale. Donc voilà, donc la stigmatisation, elle va aussi impacter la prise en charge par tous ces enjeux socio-économiques qui sont derrière et qui impactent très durement les personnes drépanocytaires et leurs familles.
Merci pour cette présentation. On y voit un petit peu plus clair. On apprend quand même à connaître cette maladie, la drépanocytose. Donc, c'est demain la journée mondiale. Et donc, c'est l'occasion justement de mettre un coup de projecteur sur cette maladie. Merci beaucoup, Laurie Vernet, chargée de mission pour la Fondation Pierre Fabre.
Merci.